7 heures. Le journal de 7 heures. César Yao.
Bonjour à tous, le sommaire de ce mardi 7 heures. Ouverture hier à Abidjan du 3e sommet Renew Pact 2025 en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Thiemoko Meilié-Koné, autour du thème des partenaires qui progressent à améliorer la compétitivité Union européenne-Afrique pour une croissance durable. Celui-ci a pour objectif de favoriser des discussions sur des enjeux cruciaux tels que la transition numérique, l'écologie et le développement des compétences tout en renforçant les chaînes de valeur communes. Naissance de l'Institut de guerre économique d'Abidjan, une réponse stratégique aux défis contemporains. Ce think tank a été créé pour faire face au terrorisme et la criminalité transfrontalière pour la sécurité économique en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, 29e édition du FESPACO, la Côte d'Ivoire a été mise à l'honneur à l'ouverture au Burkina Faso. Une statue du cinéaste Roger Ouambala a été inaugurée dimanche sur la rue des cinéastes à Ouagadougou, marquant ainsi le début d'une semaine de célébration du cinéma africain. A aussi Potin passera en revue les titres des journaux ivoiriens du jour et juste après, Nelly Dali recevra dans le cadre de l'invité de la rédaction le directeur exécutif de l'ONG Indigo, Dr Sivérin Kwame, pour évoquer la suspension de tous les programmes d'aide étrangère des États-Unis pour une durée de 3 mois, provoquant ainsi la suspension d'activités de plusieurs ONG, dont celle de l'invité. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Le renforcement de la compétitivité entre l'Union européenne et l'Afrique pour une croissance durable est au cœur du 3e sommet Renew Pact 2025 qui se tient à Abidjan du 22 au 25 février. Ce rendez-vous qui vise à renforcer la coopération bilatérale a été officiellement lancé hier lundi par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Thiemoko Meilié-Koné, compte rendu signé Junior Cardin.
L'Europe et l'Afrique partagent un destin commun qui leur impose de renforcer leur coopération face au bouleversement de l'ordre mondial. C'est le message porté par Sidi Thiemoko Touré, co-président de la 3e édition du Renew Pact.
Nous sommes dans un contexte géopolitique incertain où les valeurs du libéralisme sont constamment mises à l'épreuve. Nous avons la montée des populismes et des régimes autoritaires qui menacent les fondements même de nos démocraties en exploitant les peurs et en s'attaquant aux libertés fondamentales. Nous avons aussi l'instabilité sécuritaire qui freine nos ambitions de développement en accentuant les crises économiques et humanitaires, le repli identitaire et le protectionnisme qui remettent en question la coopération internationale en affaiblissant les dynamiques d'intégration et d'échange.
Pour relever le défi du développement, les libéraux doivent s'appuyer sur leurs valeurs fondamentales. Un principe réaffirmé par le vice-président de la République, Thiemoko Meilié-Koné, qui voit dans le libéralisme une réponse aux menaces de l'obscurantisme.
Chers amis libéraux, dans un contexte international marqué par des crises diverses et la montée des populisme qui offre des solutions simplistes à des problèmes complexes. Nous devons opposer la force de nos valeurs. Nous devons rester unis autour de notre credo commun, à savoir la primauté des libertés individuelles, une économie de marché régulée par l'état de droit et la conviction que la coopération internationale reste notre meilleure arme contre les crises.
Au programme de ce sommet, plusieurs échanges sont prévus sur des thématiques clés. Le rôle des maires libéraux, l'autonomisation des femmes en politique, le leadership des jeunes ou encore les enjeux de l'intelligence artificielle.
Voilà, 8 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, l'on remarque une radicalisation des discours politiques marqués par des invectives et des propos xénophobes et racistes. Interrogé sur ce constat, voici la réponse du sociologue et observateur de la vie politique ivoirienne, Dr Sivérin Kwame, qui fait également des propositions.
Tous ceux qui observent le champ politique ivoirien font le même constat. On est dans l'invective, on est dans des discours politiques qui parfois sont construits sur un fond de violence. C'est malheureux parce que quand on regarde notre histoire politique au cours de ces 30 dernières années, c'est presque le schéma qui a presque toujours été offert aux populations dans les environnements politiques, surtout lorsque la compétition politique porte un enjeu. 2025 constitue un tournant et donc en lien avec les enjeux, il est clair que parfois les acteurs politiques ont du mal mal à se maîtriser et ça peut générer ce qu'on voit.
C'est des choses qu'on a vécues par le passé. Est-ce qu'il faut bien qu'on retourne encore vers ces vieux démons?
Oh, vous savez, on est comme dans une société où on ne tire pas le son du passé. Les échéances politiques, notamment la présidentielle, deviennent parfois des moments où bon, on ne reconnaît presque plus la société ivoirienne. Là où, justement, on penserait que les gens feraient preuve de mesure, de tempérance dans le propos. Malheureusement, la véhémence et parfois même les discours, comme vous l'avez dit, quasiment radicalisés, se constatent. Mais bon, je crois qu'il nous faut, en tant que société, pour éviter justement de rebasculer, un vrai observatoire de la vie politique et aussi un organe régulateur qui appelle les uns aux autres à la responsabilité. Parce que tant qu'il n'aura pas ça et tant qu'on ne sanctionnera pas, tout ira dans le sens que chacun veut.
Le sociologue et observateur de la vie politique ivoirienne, Dr Séverin Kwame, dans des propos recueillis par Jean-Claude Mabéa, direction région du Hambol dans le district de la vallée du Bandaman, notamment à Katiola où le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Charles Blé Goudé, a animé un meeting le week-end dernier. Ce rassemblement a été l'occasion pour Blé Goudé donc d'appeler à la solidarité et à la cohésion sociale dans l'optique de renforcer l'unité nationale. L'écoutons.
Nous sommes des Ivoiriens et nous sommes la Côte d'Ivoire. Ce pays-là, nous n'avons pas le droit de le détruire. C'est notre pays, c'est notre seule patrie. J'ai vu des Ivoiriens pleurer pendant la CAN quand la Guinée équatoriale nous a gagné 4 à 0. Il n'y avait pas de larmes de BT. Il n'y avait pas de larmes sur lesquelles on a écrit Djoula. Il n'y avait pas de larmes sur lesquelles on a écrit Baoulé. Il n'y avait pas de larmes sur lesquelles on a écrit Ouais. C'est les larmes des Ivoiriens. C'est les larmes d'un seul peuple tchoukoulé. Je veux que la Côte d'Ivoire revienne à ses valeurs d'antan. Cette Côte d'Ivoire d'amitié où Faubonny avait mis un système en place. Un enfant qui a eu l'entrée en sixième, ici à Katiola, on pouvait l'affecter chez moi à Gagnoua. Et là-bas, il trouvait un tuteur. Un enfant qui a eu le baccalauréat ou l'entrée en sixième ou le BPC à Dabou ou à tout le pleur, on pouvait l'affecter dans n'importe quelle ville de la Côte d'Ivoire. Et il y avait toujours un Ivoirien d'ethnie différente qui nous ouvrait la porte, qui nous donnait une chambre où dormir. On l'appelait le tuteur. Nous avons perdu toutes ces habitudes. Maintenant, on parle en termes des Djoula, des Bété, des Ouais, des Dida et des Kessèges encore. Voilà ce que la guerre a gâté. Et ce qui a été déchiré, moi, l'aiguille Charles Blé Goudé, c'est de ce que je suis venu recoudre.
Voilà Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP. Intelligence économique, parlons-en. L'Institut de guerre économique d'Abidjan vient de voir le jour. Selon Abou Bamba, le président du conseil d'administration de ce think tank de défense et d'intelligence économique, son institut vient combler un vide dans un contexte international marqué par le terrorisme, le blanchiment d'argent et la criminalité transfrontalière. Nous l'écoutons.
Le monde est en pleine mutation, il y a énormément de défis sécuritaires et économiques. Et la Côte d'Ivoire n'échappe pas à ces chocs réels ou à venir. Donc il était important d'avoir cet outil pour développer une expertise nationale en intelligence économique, en stratégie de protection des intérêts économiques et commerciaux de la Côte d'Ivoire sur la base des expertises qui existent déjà dans le pays, des Ivoiriens en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens de la diaspora. Et l'autre raison aussi, c'est que nous avons remarqué qu'à certains moments, la Côte d'Ivoire subissait certains chocs qu'on réalisait a posteriori. Donc, nous avons décidé de créer ce think tank-là aussi pour anticiper et analyser les menaces économiques, qu'elles soient liées à la compétition internationale, aux pratiques prédatrices qu'on peut observer, et puis à certaines stratégies d'influence étrangère qu'on observe en ce moment, toute la propagande sur les réseaux sociaux. La troisième raison, c'était aussi comment est-ce que on pouvait ne pas attendre que la situation devienne un peu compliquée et qu'on pouvait proposer, anticiper des stratégies d'action qui permettraient donc à notre pays, la Côte d'Ivoire, de mieux défendre ses intérêts stratégiques et d'optimiser son positionnement économique dans la sous-région et dans le monde entier.
Voilà, Abou Bamba, président du conseil d'administration de ce think tank de défense et d'intelligence économique, a été joint par Jean-Claude Comé. Jeudi dernier, la commune d'Azagué a accueilli le lancement d'un projet ambitieux d'incubation et de développement communautaire dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Ce projet dédié à la formation de 150 jeunes en situation de vulnérabilité a été financé par la Suisse à hauteur de 78 millions de francs CFA et sera mis en œuvre par ONU Habitat sur une période de 12 mois. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
L'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, son Excellence Dominique Favre, a souligné l'importance d'impliquer tous les acteurs dans le processus de développement.
La Suisse finance ce projet parce que pour la Suisse, l'inclusivité dans le développement est très importante. Donc ce projet, il touche autant les personnes vulnérables ici dans la région que les migrants et les migrantes. Et c'est cet aspect-là qui a été le moteur de notre engagement.
Selon Séraphin Kouaï, directeur général du groupe DSIAE, plusieurs modules de formation seront proposés visant à renforcer les compétences des participants.
Et les modules de formation, l'entrepreneuriat, le plan d'affaires, le marketing, la comptabilité simplifiée, ces modules seront enseignés de telle sorte que quand ils sortent, ils sont prêts à l'emploi. Il s'agit de renforcer les capacités de 150 jeunes dans le domaine de l'agriculture et l'élevage. Au sorti, ils ont deux voies, soit l'emploi salarié ou ils sortent avec des plans d'affaires. Donc dans le mécanisme, nous avons mis un fonds de garantie de 5 millions. On va alimenter ce fonds. Ça sera aussi alimenté par la mairie, par le conseil général et ceux qui avec les plans d'affaires, on pourra les accompagner via l'agence emploi jeune.
Mamadou Diem, représentant pays d'ONU Habitat, est revenu sur le choix d'Azadier.
Dans le cadre de ce projet-là, il a été développé un plan de développement spatial qui a permis d'identifier un certain nombre de communes qui avaient besoin d'investissement en équipement, mais également des communes sur lesquelles il y avait un besoin en termes d'emploi. Sur cette base-là, la commune d'Azadier faisait partie des communes qui ont été sélectionnées.
A noter que la commune d'Azadier accueille ce projet après Atékoubé et la prochaine localité cible sera la commune d'Adiama.
Dans l'actualité internationale, le coup d'envoi de la 29e édition du FESPACO, le plus grand rendez-vous du cinéma africain, a été donné samedi au Palais des Sports de Ouagadougou. C'est au Burkina Faso. Pour sa deuxième journée dimanche, la Côte d'Ivoire était à l'honneur. La statue du cinéaste Roger Youambala a été installée sur la rue des cinéastes à Ouagadougou. Le point avec Didier Blé.
Une nouvelle statue est désormais installée sur la rue des cinéastes à Ouagadougou. Il s'agit de celle de l'Ivoirien Roger Nyambala, illustre réalisateur et lauréat de l'étalon d'or du Yelenga au FESPACO 1993 avec son film Au nom du Christ. La cérémonie d'hommage et de libation s'est tenue ce dimanche 23 février dans la matinée en présence du ministre de la Culture burkinabé, Gilbert Ouédraogo. Né en 1943 à Grand Bassam, Roger Nyambala a marqué l'histoire du cinéma avec plusieurs courts et longs métrages, parmi lesquels La Manière, Au nom du Christ, Ablakon, Bouka, Adangama, jusqu'à son décès le 10 juillet 2023. Après Kramo la Cinéfadika, un autre monument du cinéma ivoirien et africain, rejoint désormais celle d'autres figures du cinéma africain, telles que Gaston Caboret, Idrissa Ouédraogo, Samben Ousmane, mais aussi Souleymane Cissé. Rappelons que l'ombre du cinéaste malien planera sur ce 29e FESPACO. Souleymane Cissé a tiré sa révérence à 3 jours du FESPACO à l'âge de 84 ans. Il devait présider le jury de la compétition dans la catégorie long métrage fiction. Le 29e FESPACO se referme le 1er mars 2025.
Voilà, c'était Didier Blé sur la 29e édition du FESPACO. Tout de suite, la revue des titres des journaux ivoiriens du jour avec Aoussi Potin. Bonjour Potin.
Bonjour à vous César, bonjour à tous. Abidjan carrefour du libéralisme mondial à l'occasion de la 3e édition du sommet Pacifique, Afrique et Caraïbes des partis libéraux. Certains de nos journaux parus ce jour reviennent à travers le titre à la une sur cet événement. Relations Afrique-Europe, les libéraux souhaitent une évolution tangible, titre le rassemblement. Et l'Inter de souligner lui que ce 3e sommet mondial de libéraux, des libéraux propose un nouveau partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Un 3e sommet dont l'ouverture a été présidée hier par le vice-président ivoirien Timoko Meliekone. Fraternité Matin barre sa une de ce titre avec ce titre extrait de l'allocution du vice-président ivoirien. Le monde a besoin de notre lumière face à l'obscurantisme. Alors, qu'en est-il ou encore quoi de neuf, César, ce matin dans les titres de une de nos tabloïds en ce qui concerne l'échiquier politique ivoirien? Eh bien, les projecteurs de l'actualité sont tournés toujours vers le PDCI-RDA avec ce que l'on pourrait appeler l'affaire, les suites de l'affaire de la destitution du président de ce parti. Une affaire, César Yao, qui a tout l'air d'un pétard mouillé, d'autant plus que le jour plus titre PDCI-RDA, après leur simagré, les quatre plaignants demandent pardon et veulent rencontrer Thiam. Les plaignants dénoncent une manipulation et annulent leur plainte, affiche de son côté le Bélier. Plus sobrement et photo des quatre désormais ex-plaignants à l'appui, le nouveau réveil titre. tentative de déstabilisation du PDCI-RDA, assignation en destitution du président Thiam, les quatre plaignants retirent du moins leur plainte. Toujours au chapitre du PDCI-RDA, le quotidien Le Rassemblement indique qu'à 8 mois de la présidentielle, il y a 2 erreurs qui vont couler Thiam, le président du PDCI-RDA. Et puis, le mandat d'indiqué, parlant toujours de la présidentielle 2025, du moins parlant de la présidentielle 2025, cette fois-ci, qu'au niveau du PDCI, du PPACI et du FPI, il y a donc un rêve, ces trois partis rêvent, selon ce quotidien, rêve d'un désert électoral le 25 octobre. L'Inter, lui, indique qu'au niveau, donc, à l'approche de cette présidentielle 2025, eh bien, l'on se prépare au niveau du parti au pouvoir, le RHDP, l'on se prépare donc à l'annonce de son candidat, savoir le président en exercice, Alassane Ouattara. Terminons, César, avec donc la première édition de la foire de l'emploi et du recrutement du 3 au 5 mars prochain. Abidjan abritera au Palais de la Culture la première édition de la dite foire. Le Patriote en fait l'annonce dans ses titres de une. La première édition de la foire de l'emploi et du recrutement annoncée quand le mandat affiche pour sa part insertion professionnelle, l'État annonce une foire nationale de l'emploi et du recrutement.
Voilà à l'instant la revue des titres des journaux ivoiriens du jour avec Aoussi Potin. À présent, l'invité de la rédaction, le président américain a ordonné par décret la suspension de tous les programmes d'aide étrangère des États-Unis pour une durée de 3 mois. Cette décision n'est pas sans conséquence pour certaines organisations ivoiriennes, puisque cette aide soutenait des programmes essentiels en matière de santé, d'éducation, d'autonomisation économique et cohésion sociale. Aujourd'hui, avec l'arrêt des financements, de nombreuses ONG se retrouvent contraintes de suspendre leurs activités et leurs employés, dont l'ONG Indigo. Dans cet entretien avec Nelly Dali, son directeur exécutif, Dr Séverin Kwame, nous en dit plus.
Bonjour Dr Séverin Kwame.
Bonjour Madame.
L'ONG Indigo Côte d'Ivoire était en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Quelles étaient les activités de votre ONG financées par cette aide?
Indigo Côte d'Ivoire avait la charge d'un segment du projet. C'est un projet qui a différents segments. L'idée, c'était de travailler sur la résilience des communautés, donc comprendre justement les facteurs de risque, les vulnérabilités, mais aussi les leviers de l'action. Il y avait des activités de dialogue, des activités en lien avec la gouvernance des ressources naturelles, la communication pour déconstruire certains discours sur lesquels prospère la rhétorique djihadiste, etc. Mais le principe, c'était véritablement d'assécher les terreaux fertiles sur lesquels prospèrent les groupes extrémistes violents.
Depuis quelques jours, le président américain Donald Trump a fait geler l'aide américaine pour une durée de 3 mois. Votre organisation, est-ce qu'elle est impactée?
Naturellement, l'organisation et toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de ce projet sont impactées. Dans notre cas, par exemple, les personnels qui étaient dédiés à la mise en œuvre des activités du projet ont dû suspendre toutes les activités. Cela impliquait qu'ils soient mis en chômage technique pour attendre justement que la décision qui a été prise soit mise en œuvre et que, au terme de cette décision, il soit décidé de la continuité ou de la cessation complète du projet. Donc, dans un premier temps, l'impact direct du gel des activités, c'est la mise en chômage technique de ces personnels-là.
Combien d'employés votre organisation a suspendu face à cette décision?
5 personnels qui sont aujourd'hui impactés directement. Une seule personne mise en chômage, c'est quand même important, c'est des chefs de famille et c'est des personnes qui ont des responsabilités qu'il faut accompagner socialement pour prendre en charge la scolarité de leurs enfants, pour prendre en charge de la santé de leurs enfants.
La mise en chômage de toutes ces personnes aujourd'hui, quel est l'état dans lequel se trouve le projet? Est-ce que c'est tous les projets qui ont été impactés? Est-ce que c'est certains projets qui ont été impactés?
Oui, pour les projets financés par le gouvernement américain à travers USAID qui sont impactés. Nous, on est sur le segment cohésion sociale, consolidation de la paix, mais il y a de nombreux projets qui travaillent sur le segment santé, sur d'autres types d'actions qui ont été aussi impactés.
Là, on a parlé des employés. Qu'en est-il des bénéficiaires?
C'est clair que la situation des employés questionne, puisqu'on vous parle de la zone frontalière nord. C'est des zones qui sont frontalières de régions au Burkina et au Mali qui sont sous la menace des groupes extrémistes violents. Donc l'idée de ces initiatives, c'est de travailler avec toutes les composantes de la société pour que l'offre djihadiste ne prospère pas en Côte d'Ivoire. Donc c'est un projet qui avait une vocation assez préventive, vu que toute la sous-région ouest-africaine est aujourd'hui pratiquement sous la menace de ces groupes-là. dans ce type d'initiative, lorsqu'il y a une suspension de l'action, il est après difficile de capitaliser sur tous les effets bénéfiques du projet. Il y avait des activités de résolution de conflits, de promotion de la cohésion sociale, de rapprochement communautaire qui sont aujourd'hui en arrêt. Ce projet spécifique jouissait auprès des populations d'une très bonne réputation parce qu'elle a permis de construire des ponts entre les populations elles-mêmes, mais aussi entre les populations et ceux qui agissent pour le compte de l'État. Donc aujourd'hui, le gel de ces activités crée un vide puisque le projet avait vocation à accompagner l'État dans ce travail de rapprochement communautaire, dans ce travail de rapprochement de l'État des populations.
À l'exception des États-Unis, est-ce que votre ONG bénéficie d'autres soutiens ou du gouvernement qui vous permettront bien évidemment de maintenir certaines de vos activités?
Pour ce qui est d'Indigo, la chance que nous avons, c'est justement d'avoir un panel de partenaires et de bailleurs relativement diversifiés. Nous menons des activités grâce à l'appui de fondations, de l'Union européenne ou d'autres structures, ce qui nous permet de continuer nos activités sur ces autres segments-là avec les autres financements.
Docteur Sévérin Kouami, en tant que directeur exécutif d'une ONG, quelles leçons tirez-vous de cette situation?
Je crois que ce type de décision aussi impose aux organisations de la société civile, qui sont presque toutes dépendantes de ressources extérieures, de réfléchir à leur autonomisation financière, de réfléchir à des stratégies de mobilisation de ressources propres qui leur permettent de travailler pour le bien-être des populations. Et là-dessus, je crois qu'aujourd'hui, ça pose toute la question de la solidité de la société civile en Côte d'Ivoire. On est face à des organisations qui sont très vulnérables du fait de leur dépendance forte des ressources extérieures. On n'a pas une capacité de mobilisation de ressources propres. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, les fêtières qui structure ces organisations trouvent une opportunité, malheureuse c'est peut-être, mais une opportunité de mener une réflexion plus globale sur justement comment on consolide l'action de la société civile, comment on la rend durable, les ressources se raréfient, donc le peu de ressources qui existent, comment on les utilise à bon escient, comment on crée au sein de la population ivoirienne un sens élevé de la participation à ce type de choses. Je crois aussi que c'est des choses sur lesquelles il faut travailler pour le bonheur des populations.
Merci docteur pour vos propositions face à ces éventuelles situations qui pourraient arriver à tout moment.
Merci madame.
Voilà, docteur Sévérin Kouami, directeur exécutif de l'ONG Indigo, était avec Nelly Dali dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui met un terme à cette édition. Le rappel de l'essentiel. Ouverture hier à Abidjan du troisième sommet Renew PAC 2025 en présence du vice-président de la République. Eh bien, pour Tiémoko Meillié-Koné, pour relever les défis du développement, les libéraux doivent s'appuyer sur leurs valeurs fondamentales. Naissance de l'Institut de guerre économique d'Abidjan, une réponse stratégique aux défis contemporains. Ce think tank a été créé pour faire face au terrorisme et à la criminalité transfrontalière pour la sécurité économique en Côte d'Ivoire. Enfin, dans l'actualité internationale, 29e édition du FESPACO, la Côte d'Ivoire a été mise à l'honneur à l'ouverture au Burkina Faso. Une statue du cinéaste Roger Yuan Mbala a été inaugurée dimanche sur la rue des cinéastes à Ouagadougou, marquant ainsi le début d'une semaine de célébration du cinéma africain. Fin de ce mardi 7h, retour à l'actualité 8h.
Radio de la Paix.
Amant, Bangolo, Duékoué, Giglo, 91.1 MHz.
Le ministère de la Promotion.